Et oui, alors que l'on a appris hier qu'il faudrait encore attendre pour l'ouverture des stations de ski, je vous propose ce matin de parcourir un livre qui pose des questions sur les catégories sociales de ceux qu'on pourrait appeler les usagers de la montagne. Ce livre s'intitule « La montagne pour tous, la genèse d'une ambition dans l'Europe du XXe siècle ». C'est un ouvrage collectif au Pas de l'Oiseau édition. Il est dirigé par Olivier Wabian qui est en ligne avec nous. Bonjour Olivier Wabian.
Bonjour.
Vous êtes enseignant-chercheur à la Faculté des sciences du sport de l'Université Paul Sabatier à Toulouse, également directeur de l'Observatoire transfrontalier des refuges des Pyrénées. Alors d'abord, d'un mot, c'est quoi l'objet de cet observatoire, Olivier Wabian?
Cet observatoire, il a été créé dans le cadre d'un programme européen, POCTEFA, qui réunit donc les principaux gestionnaires des refuges à la fois de l'Andorre, de l'Espagne et du versant français des Pyrénées. Et donc, il a pour mission de rassembler des informations sur les hébergements d'altitude et sur leurs usagers. Et les résultats que l'observatoire peut présenter doivent permettre aux acteurs des territoires, en fait, d'élaborer des stratégies coordonnées de promotion des Pyrénées dans une démarche de développement durable. C'est ça le rôle de l'Observatoire. C'est donc une structure de recherche qui cherche à aider les acteurs du développement de la fréquentation des Pyrénées à harmoniser leur politique de promotion de part et d'autre de la frontière.
Avec ce que vous m'avez dit hors antenne, hein, en ce moment où vous travaillez notamment à l'uniformisation, à la création d'une plateforme de réservation commune à toutes les refuges, hein, c'est bien ça?
Voilà, un des outils qui est élaboré dans le cadre de ce programme européen, c'est une plateforme de réservation qui soit commune pour l'Andorre, l'Espagne et la France, pour la réservation à la fois des nuitées en refuge, mais aussi la promotion d'un certain nombre de circuits transfrontaliers.
Intéressant. Alors, venons-en à votre livre, si vous voulez bien, Olivier Wabian. Je le rappelle, il s'intitule « La montagne pour tous, la genèse d'une ambition dans l'Europe du XXe siècle ». La montagne pour tous, on a presque envie d'y ajouter un point d'interrogation, parce que l'idée qui le parcourt, ce livre, pourrait se résoudre à cette interrogation. Pourquoi les activités de montagne restent le fait d'une population aisée, hein, c'est ça qui est lié en filigrane derrière chaque page de votre livre. Quelles sont d'abord les données chiffrées qui vous permettent de l'affirmer, que la montagne est le fait d'une population riche, en fait, hein?
Ben en fait, l'ensemble des données sociologiques sur les activités de loisirs en montagne vont toutes dans le même sens. Elles montrent que ce soit pour le ski, pour l'alpinisme, pour la randonnée, pour le parapente, pour le trail, elles montrent toutes que finalement, ce sont les catégories des cadres, des professions intellectuelles supérieures, c'est-à-dire des catégories les plus diplômées, qui sont largement majoritaires. Et à l'inverse, on se rend compte que les ouvriers représentent quelques pourcentages dans ces pratiques. Et ils sont nettement sous-représentés par rapport à leur place dans la société française. Il y a des écarts qui se chiffrent entre 10 et 14 points par rapport donc à leur poids dans la société française. Et donc ça, c'est une véritable interrogation pour les sciences sociales.
Alors, dans quelle proportion est-ce que vous pouvez nous donner le chiffre, notamment, et ces chiffres, je crois que vous me l'aviez dit, hein, c'est notamment votre rôle à l'Observatoire transfrontalier qui vous permet de les avoir de façon précise. Dans quelle proportion ces personnes de catégorie sociale supérieures représentent la plus grande part des usagers de la montagne?
Bah, pour le ski, par exemple, on sait que la pratique des séjours au sport d'hiver concerne environ 10% des Français, et que là, ce sont les cadres qui représentent pratiquement 60% à 80% de cette fréquentation. Pour les refuges, la surreprésentation des cadres des professions intellectuelles, c'est donc de l'ordre aussi de 60% à peu près, avec une surreprésentation de ces catégories de plus de 30% par rapport à leur poids dans la société française. C'est surtout ces comparaisons par rapport à la population française qui sont significatives, en fait, parce que ça montre un écart entre voilà la place qui serait statistiquement normale de leur présence dans des activités et puis des disparités sociales qui font que certaines catégories sociales sont plus représentées dans les activités montagnes que d'autres, et notamment les catégories populaires.
Alors moi, ce qui m'étonne, Olivier Wabian, je rappelle à ceux qui nous rejoignent, hein, vous avez dirigé ce livre, La montagne pour tous, dont on parle ce matin. Moi, ce qui m'étonne, en fait, c'est que ça vous étonne, cette surreprésentation des catégories supérieures, parce qu'il faut quand même avoir des moyens financiers importants pour aller une semaine au ski, on est d'accord là-dessus?
Oui, bien sûr, il y a des activités comme le ski qui nécessitent des moyens financiers importants. La randonnée pédestre en montagne, par exemple, c'est une activité qui n'est pas nécessairement très onéreuse. Et donc, on devrait pouvoir retrouver une répartition à peu près équivalente des différentes catégories sociales dans la randonnée, alors que ce n'est pas le cas. En montagne, c'est encore les catégories les plus diplômées qui sont majoritaires.
Et alors, quelles sont les logiques sociales à l'œuvre? C'est quoi le ressort de ce phénomène? Ça s'éduque, la montagne? Il faut être éduqué à la montagne?
En fait, les travaux de recherche que je montre indiquent que finalement, la barrière financière, si elle existe, comme on vient de l'évoquer, elle n'explique pas à elle seule ces disparités sociales. Et donc, il faut essayer de trouver d'autres explications, et notamment en termes de différences culturelles dans le rapport à la montagne. En fait, on se rend compte que le goût de l'effort, la sensibilité à la nature, l'attrait pour la montagne, ce ne sont pas des dispositions qui sont acquises d'emblée. En fait, elles relèvent d'une forme de socialisation progressive, qui est d'autant plus efficace qu'elle est plus précoce. Et donc, souvent, elle se déroule dans le cadre familial. Ce sont les parents qui font découvrir la montagne à leurs enfants. Mais l'école, le groupe des amis, les associations peuvent aussi jouer un rôle important dans cette socialisation.
Et alors, ce qu'on découvre également dans votre livre, hein, qui met en perspective cette ambition de démocratisation de la montagne dans l'histoire, et ça, je ne l'ai pas dit encore, hein, de façon comparée, hein, avec d'autres pays européens, ce qu'on découvre, c'est qu'il y a eu à certaines périodes de l'histoire une volonté manifeste de rendre la montagne plus accessible à tous, de la démocratiser. Alors, on va retenir notamment deux périodes, d'abord dans les années 20, puis, après la libération, qu'est-ce qui s'est passé à ces deux moments particuliers, Olivier Wabian?
En fait, il y a deux grandes périodes, effectivement, dans lesquelles on observe des mobilisations en faveur de du développement des activités de montagne pour les classes populaires. C'est donc les années 20 et 30, d'une part, et puis la période qui suit la libération. À l'origine, ce sont les élites sociales européennes, aristocratiques et bourgeoises, qui ont lancé la mode des loisirs en montagne, qui les ont organisées et qui ont donné naissance au premier club alpin.
À quelle période?
Mais on se rend compte que...
À quelle période ils ont lancé ça, les élites? Elles ont lancé ça, les élites?
En fait, c'était au 19e siècle. Le début de l'alpinisme, on peut considérer que c'est l'ascension du Mont Blanc en 1786 par de Saussure, mais c'est surtout à partir du 19e siècle que ça devient une forme de loisir, les activités de montagne.
Et donc dans les années 20 et dans les années après la libération, donc il y a un mouvement qui se constitue pour la rendre accessible à tous.
Et donc, effectivement, d'abord, il y a eu des associations qui ont cherché à promouvoir ces activités auprès des classes moyennes, donc à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, notamment le Touring Club de France, mais aussi des associations d'excursionnistes dans les grandes villes. Mais en ce qui concerne les classes populaires, C'est à partir des années 20 et non pas après 1936, comme on l'imagine souvent, après la politique du Front populaire, qu'on voit émerger des revendications pour la montagne pour tous, et notamment pour les ouvriers. Et donc il y a un des mouvements qui est à l'origine de cette mobilisation en faveur de la montagne populaire, c'est une organisation qui s'appelle les Amis de la Nature. Ouais. Elle se constitue en France en 1927 et finalement, elle vise à éduquer les jeunes ouvriers aux activités de loisirs dans la nature et notamment à la montagne, mais aussi à éveiller leur conscience politique.
Alors ça, c'est dans les années 20, donc vous nous dites 1927, puis après à la libération... Un nouveau mouvement de promotion de la montagne. C'est deux œufs sont à la manœuvre, hein, je crois, hein, Henri Barriot et Jean Dutheil, c'est ça?
Oui, alors juste avant de passer à la deuxième période, on peut dire aussi que une autre source de mobilisation de la jeunesse et des masses populaires en faveur de la montagne, ce sont les régimes fascistes, notamment en Italie et en Allemagne nazie, qui voit dans la pratique de la montagne une forme d'éducation morale en relation avec les valeurs que ces régimes veulent promouvoir, donc une vision traditionnaliste de la montagne, une approche anti-intellectualiste, contrairement à l'éducation populaire des Amis de la Nature, et puis également l'exaltation de l'esprit de conquête et du sacrifice pour la gloire de ces régimes. Donc voilà, c'est un petit peu les deux orientations qui vont chercher à promouvoir la pratique de la montagne auprès des catégories populaires. Et d'ailleurs, on va retrouver cette même démarche sous le régime de Vichy en France, avec les chantiers de la jeunesse, avec l'organisation Jeunesse et Montagne, hein, qui s'adresse principalement aux jeunes conscrits pour le service national.
Et donc, on l'a compris, hein, donc je reprends le fil, car le temps file. Deux moments où cette volonté, cette ambition de démocratisation de la montagne était prise en compte, à quel moment ça a décliné, cette ambition? On s'en est moins préoccupé, Olivier Wabian?
En fait, on se rend compte que cet élan... en faveur de la montagne populaire, il est lié à la période de la libération et il va perdurer jusqu'aux années 60-70 à travers notamment des mouvements d'éducation populaire, le groupe Montagne FSGT, dans les Pyrénées, l'œuvre de montagne, hein, une association qui gère un refuge de la Bérouade qui cherche à former à la montagne et aux activités comme le ski et l'alpinisme, à la fois des scolaires, mais aussi des jeunes ouvriers. Et c'est dans les années 80-90 qu'on voit ces mouvements en faveur de la montagne pour tous décliner, de même que le mouvement des classes de neige ou des classes vertes en montagne tend aussi à se réduire comme peu de chagrin.
Dernière question, Olivier Wabian. Ça sera quoi, selon vous, l'avenir des stations de ski, notamment dans les Pyrénées, au regard du réchauffement climatique? Est-ce que les cartes pourraient être rebattues, justement, à propos de cette démocratisation de la montagne?
La question de l'avenir des stations de montagne, elle est relativement compliquée, parce que, comme on le voit bien actuellement, le phénomène de l'enneigement, il est devenu très aléatoire. Oui. Et donc, si, effectivement, il y a un réchauffement climatique qui fait que l'enneigement est moindre, dans la durée, on voit qu'il peut y avoir encore des épisodes de fortes chutes de neige. Et donc, pour les acteurs du tourisme, c'est très difficile, finalement, de changer de modèle et de s'engager dans la transition vers le développement durable et vers une alternative au tout-ski et au tout-tourisme. Et donc, les solutions, elles passent par une diversification des activités, notamment, on le voit aujourd'hui, à travers le développement de la raquette à neige, du ski de randonnée, mais aussi si les conditions climatiques se réchauffent, de la randonnée pédestre, voire du VTT. Et puis, il sait aussi de chercher à développer davantage la pratique des populations locales, plutôt que d'aller chercher des clientèles étrangères, favoriser finalement la pratique de la montagne par les habitants des régions de montagne et
merci
des
beaucoup,
régions proches.
Merci beaucoup, Olivier Wabian. Malheureusement, nous devons nous quitter. Je renvoie vers votre passionnant ouvrage, La montagne pour tous, la jeunesse d'une ambition dans l'Europe du XXe siècle, ouvrage collectif aux éditions Pas de l'Oiseau. Vous l'avez dirigé, Olivier Wabian. Merci beaucoup pour ce passionnant entretien.